Allez, je m'assieds. Bonjour à tous. Je vous prie de nous excuser pour ce léger retard dû à des circonstances indépendantes de la volonté de Sylvie Mière, la modératrice, qui, si j'ai bien compris, est bloquée à un feu rouge. Bon. Nous allons commencer un débat quand fantaisie rime avec magie. Tout d'abord, je voudrais excuser aussi une deuxième personne, Lucius Shepard, dont je suis le traducteur, dont j'étais censé interpréter les propos aujourd'hui, et qui malheureusement est indisposé et doit garder la chambre. Donc il vous prie très sincèrement d'excuser son absence, en espérant que ce ne sera que partie remise. Et puis bon, je vais me substituer à ma camarade Sylvie Miller et vous présenter les participants à ce débat, ou plutôt les laisser se présenter eux-mêmes. Galanterie oblige, on va commencer par Rachel. Rachel Tanner.
Oui, bonjour. J'écris de la fantaisie historique principalement. J'ai commencé par une espèce de diptyque qui s'intitule le glaive de Mithra et enfin l'empreinte des dieux, le glaive de Mithra. Pour résumer brièvement, donc c'est une uchronie qui se passe au 8e siècle après Jésus-Christ, avec comme religion dominante donc le culte de Mithra. J'ai écrit un préhistoire, j'ai écrit diverses nouvelles, je travaille sur un roman de fantasy. Et je peux dire d'une manière générale, je ne me cantonne pas à un genre, donc j'écris aussi de la fantasy urbaine. J'aime bien écrire sur l'actualité. Donc je ne suis pas spécifiquement, je dirais, une spécialiste de la magie. Mais bon, peut-être Sylvie aura d'autres commentaires à faire sur ce point.
Je comprends pas, moi je suis experte en magie, je vois pas le problème. Moi je suis Marie et j'écris du fantastique et de la fantasy, où il y a un petit peu de magie. Donc voilà, mais je suis pas non plus experte, mais on va s'en sortir. Voilà.
Oui, bonjour. Moi, c'est Arthur Ténor et je suis essentiellement un auteur jeunesse. Et alors, la magie, c'est pareil, c'est un mot qui mériterait d'être défini parce que tout est magique. J'espère que j'écris des livres magiques qui provoquent des miracles. Mais sinon, j'écris dans tous les genres, pour tous les âges. Voilà, donc ce qui fait que je suis assez difficile à classer. En l'occurrence, je suis là aux Imaginales pour des romans de type heroic fantasy, fantastique. Alors la magie, on la retrouve quand on est en jeunesse, quand on est dans les tranches les plus jeunes.
Je vais y venir.
Voilà, donc je pense que c'est...
Donc très bien, bonjour à tous. Alors tout d'abord, mille excuses pour le retard, mais en fait, il se trouve que je me suis rendu compte que j'avais oublié toutes mes notes à l'hôtel. Je me suis dit, bon, c'est épinal, il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai le temps de faire l'aller-retour, sauf que j'étais coincée dans les feux. Et donc, ça a été un petit peu speed. Donc vraiment, je vous demande de m'excuser, parce que ce n'est pas mon habitude de commencer les débats en retard. Bon, en même temps, ils ont été des grands garçons et des grandes filles, ils se sont présentés. Donc je vais juste éventuellement compléter un petit peu ce qu'ils ont pu dire, et ensuite on va vraiment pouvoir démarrer ce débat, donc, qui a pour thème la magie, avec toujours le petit complément qui va bien, quand fantaisie rime avec magie. Donc, Rachel, effectivement, qui s'est présentée, donc, est un écrivain qui a une très grande passion pour le récit épique, les scènes de bataille, et puis également une partie de ce qu'elle a écrit qui traite de toute une époque historique autour de Mithra, le culte de Mithra. Il y a eu aussi Rêve de Mammouth. Enfin, voilà, l'histoire tient une place importante, mais on verra justement une vision particulière de la magie, si on peut la trouver. Donc, Marie Pavlenko, donc, qui est scénariste, BD, ciné, après avoir fait un certain nombre d'autres choses, et qui a notamment écrit la trilogie, le livre de Saskia, avec le personnage de Saskia, et dans lequel, effectivement, il y a de la magie, du mystère. Et puis, plus récemment, La fille sortilège, avec ce personnage d'Erin aussi, où il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je serai amenée à vous questionner sur cet univers et sur la façon dont vous abordez la magie dans ce roman. Et donc, Arthur Ténor, qui s'est effectivement, à juste titre, présenté comme un auteur jeunesse, qui a effectivement commis, entre guillemets, un certain nombre de livres, et qui écrivait essentiellement en littérature générale, Alors, on verra après la place de la magie, mais enfin, des choses qui n'étaient pas forcément étiquetées, héroïque, fantasy, dans les titres et dans le... alors que plus récemment, avec notamment toute la série L'Elfe au Dragon, là, on a clairement un étiquetage fantasy plus apparent. Et alors justement, on verra si la magie est purement liée à la fantasy ou est-ce qu'elle apparaît ailleurs. Ça sera le moyen, effectivement, à travers ce que vous avez écrit, de voir quelle place elle peut tenir. Alors, Arthur, donc, quand on a écrit plutôt des romans un peu plus, qui en tout cas dans leur titre et dans leur étiquetage apparaissent plus comme un peu généralistes, pas nécessairement étiquetés fantasy, comment est-ce qu'on arrive à travers justement la série L'Elfe au Dragon et un certain nombre d'ouvrages à aborder le genre fantasy, epic fantasy, et quelle place la magie y tient?
Déjà, moi, la fantasy, j'ai été élevé au biberon Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Donc, j'ai appris à écrire avec le Seigneur des Anneaux sur ma table de nuit, les 1400 pages pendant 10 ans. Je suis imbibé de cet univers où on retrouve le médiéval, mais un médiéval dans lequel on peut faire passer beaucoup d'autres choses, quoi, des dragons ou de la magie ou des choses comme ça. Et c'est vrai que quand je me suis attaqué... c'était pas mes premiers romans d'heroic fantasy, mais ce sont des textes qui font 200 pages en fait, qui s'adressent aux 12-15 ans, alors que la fantasy souvent c'est des gros pavés. Et je voulais vraiment écrire quelque chose qui puisse intéresser les plus jeunes lecteurs, en fait, que ce soit presque des romans d'entrée, je dirais, dans l'univers de la fantasy. Et alors justement, comment on fait rentrer la magie dans la fantasy? Je vous donne l'exemple dans la série L'Elfe au Dragon. Il suffit de créer... j'ai créé deux guildes. Enfin, j'ai créé la confrérie des magiciens et la guilde des sorciers. Comme ça, j'étais sûr de les trouver. Et ils se différencient de la manière suivante. C'est que la confrérie des magiciens, maîtrise les pouvoirs de l'esprit, véritablement, et donc ils utilisent des pouvoirs qu'on dira vraiment magiques, alors que les sorciers, eux, ils maîtrisent plutôt les sciences, on dirait les alchimistes, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus matérialistes quelque part, c'est-à-dire qu'ils cherchent à dominer la nature en utilisant la connaissance qu'on peut avoir de la chimie, des matériaux, des poudres, des potions, etc., qui ont des effets qui peuvent avoir... donner l'impression que c'est magique, alors qu'en fait, ça n'a rien de magique, sinon pour celui qui ne sait pas à quoi est dû le phénomène. Donc, dans la fantasy, j'ai fait rentrer de la vraie magie, la magie de l'esprit, mais en jouant dans un univers qui est un univers typique heroic fantasy.
Et alors, j'ai vu tout à l'heure que vous tiquiez quand j'ai dit que, effectivement, vous aviez des romans qui étaient plus littérature blanche, entre guillemets, et... Est-ce qu'il y a de la magie dans cela aussi, d'une certaine manière?
Non, j'ai tiqué parce que j'ai cru que vous parliez de... Quand on parle de littérature généraliste, en fait, j'ai rapproché de la littérature pour adultes, ce que je ne fais pas. Donc, alors, généraliste en fait, au sens dans les thèmes.
Oui.
Vous savez, quand on écrit la biographie imaginaire du soldat inconnu, il n'y a pas du tout de magie. Vraiment pas du tout. Hein. Ou un livre sur le harcèlement au collège. Mmh. C'est des trucs... Mais c'est un autre genre de littérature. C'est une littérature où on exprime des sentiments, on exprime des envies, où on plonge dans le réel pur. Mmh. Alors que là, avec la fantaisie, avec l'imaginaire, on n'est plus dans le réel, on est dans des univers qui sont... c'est ce que j'appelais hier dans une autre table ronde, mon réel imaginaire. Mmh. C'est-à-dire, quand on est dedans, c'est comme dans le rêve. Ça peut être complètement farfelu, mais c'est du réel au moment... où on est à l'intérieur. Donc, c'est du réel imaginaire. Et je suis très fasciné par l'idée que ce réel imaginaire peut être si puissant, si fort, qu'il devient du réel à l'état pur. Mm-hmm. En tout cas, pour l'esprit.
D'accord, merci. Marie Pavlenko, vous, chez vous, la magie, c'est quelque chose qui tient une place, que vous manipulez volontiers au travers de vos romans. Alors, parlez-nous déjà d'Erin, de ce personnage qui vit dans la Cité des Six. Décrivez-nous un petit peu cet environnement et puis nous en dire un peu sur le personnage et peut-être le rôle de la magie dans tout ça.
Alors, globalement, pour moi, la magie, elle est un peu un vecteur métaphorique, on va dire, dans une histoire. Dans La fille sortilège, la magie est partout et elle permet à la ville dans laquelle Erin survit, qui s'appelle la Cité des Six, de fonctionner, puisque c'est une ville qui est posée au milieu du désert et que s'il n'y avait pas de magie, il n'y aurait pas de ville. Voilà. Donc, cette magie, elle est quasiment une... Elle est évanescente, elle est mystérieuse, on l'utilise pour façonner le monde et elle est quasiment une énergie. Hein, on pourrait faire un parallèle avec aujourd'hui. Moi, le parallèle que je fais même, c'est qu'en fait, comme elle va finir par manquer, c'est quasiment voilà, la métaphore du pétrole aujourd'hui. Donc, c'est cette forme de magie. Dans Saskia, ce sont les Enkidar, donc les créatures dont j'explore le monde dans le livre de Saskia, qui ont un don et qui manipulent cette magie. Donc, c'est une aspérité en plus dans leur personnalité, quelque chose qui définit chaque individu. Voilà.
D'accord. Alors, est-ce que pour vous, justement, la magie, c'est un accessoire indispensable de la fantasy ? Parce qu'il y en a partout dans tous vos mondes, apparemment.
Alors, pour moi, la magie est inhérente à la fantasy. On n'écrit pas de fantasy. Enfin, je connais pas. Quand j'ai vu l'intitulé de la conférence, je me suis dit, mais est-ce que j'ai déjà lu un bouquin de fantasy sans magie ? Non, je crois pas. Mais parce que, justement, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour embellir le monde ou pour le noircir, pour lui donner une dimension en plus, et en même temps, pour insuffler voilà, quelque chose de différent, propre à la littérature de l'imaginaire, mais qui peut résonner avec notre monde. Voilà.
Ça va ? D'accord, merci beaucoup. Rachel, donc... Quand on vous voit sur ce débat, on se dit, tiens, la présence de Rachel n'est pas forcément une évidence, parce que Rachel, c'est justement pas tous les livres de fantasy à l'ancienne, épique, médiévale, avec de la magie, mais peut-être qu'on en retrouve sous une autre forme, avec notamment tout le mystère qu'il y a autour du culte de Mithra.
Je dirais plutôt rituel, en fait.
Voilà, à travers le rituel et la religion, donc voilà.
D'abord, puis-je répondre déjà à Marie ? Oui. Il y a d'excellents livres de fantasy sans magie aucune. Je pense au Lion d'Al-Rassan, par exemple. Je pense c'est le livre Gabriel Kay. Je pense même à la mosaïque de Sarance. Il y a certes ces oiseaux magiques, mais mais ce n'est nullement indispensable à l'histoire. C'est juste un petit appendice qui n'ajoute ni plus ni moins à l'histoire. Donc,
sauf que tu en as quand même.
Alors, dans les Lions d'Al-Rassan, il y en a pas. Dans les Lions d'Al-Rassan, il n'y en a pas.
Non,
du
mais
tout.
C'est pas que je veux toujours avoir raison. Hein, mais...
non, mais il existe effectivement quelques ouvrages de fantasy dans lesquels il n'y a pas nécessairement de magie, non. Avec notamment tous les courants plus récents de la fantasy, comme la fantasy urbaine, etc., où on peut trouver.
Mais la fantasy urbaine,
à ce moment-là,
aussi...
c'est du médiéval fantastique, c'est pas de la fantasy.
Si, c'est de la fantasy, c'est un des courants de la fantasy.
Alors, c'est quoi la fantasy, pardonnez-moi, par rapport au médiéval fantastique ?
Alors là, si on est sur les définitions, donc, a priori,
non,
là.
Ne t'engage pas là-dedans.
Alors, on va pas après, parce qu'il y a X définitions, mais globalement, en tout cas, ce qui est un petit peu le plus admis dans le milieu des gens qui en écrivent, qui en lisent, etc., c'est que. On désigne de fantasy, en fait, des écrits dans lesquels l'auteur crée un univers spécifique avec ses règles spécifiques qui, au départ, étaient extrêmement connotées, épiques, médiévales, etc., et qui, depuis, a évolué, mais dans lequel ce monde a ses règles, dans lesquels, par exemple, la magie peut être un des éléments. Il peut y avoir des créatures comme des licornes, etc., mais qui sont des animaux tout à fait ordinaires, alors que si on était dans le fantastique... Oups, j'ai croisé une licorne, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire ? C'est un animal qui n'est pas dans mon monde. Donc, c'est juste des déplacements de vision. Et alors, ensuite, on a des courants divers où des gens, par exemple, comme Neil Gaiman dans Neverwhere en fantasy urbaine, on est dans le monde d'aujourd'hui et on bascule dans un Londres un petit peu parallèle avec ses propres règles, etc. Donc, mais en même temps, on est toujours chez les Français, les définitions, les genres, les sous-genres et les classifications, oui. Ça porte toujours à discussion et on adore ça.
Je pense que c'est un débat qu'on ne va pas lancer parce que...
mais c'est vachement intéressant. Parce que
oui, c'est intéressant. Mais regarde. Le truc, c'est qu'en fait, en France, effectivement, comme on adore parler. À une époque, c'était ah ben ça, c'est de la science-fiction, ça, c'est de la fantasy, ça, c'est du fantastique. Oui. Alors, on a eu combien de débats là-dessus et au final, c'est pas forcément.
Mais tu vois, au tout début, Arthur disait peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on essaie de creuser la définition de magie. Et tu vois, typiquement, quand tu alors je sais pas à quoi tu penses quand tu parles d'urban fantasy, mais pour moi, un métamorphe, c'est magique. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je te dis qu'il y en a quasiment partout, parce que
oui, alors que là, non, il n'est pas forcément envisagé comme magique. C'est simplement une créature qui est faite comme ça dans ce monde-là, mais c'est pas magique pour ce monde-là, par exemple.
Donc on est sur,
on est sur des éléments de définition, en fait. Ouais. Voilà.
Bon, en revanche, dans le traitement que je donne à la magie dans mes romans, c'est plus une dimension historique, dans le sens où la magie est quelque chose qui existe parce que c'est quelque chose que les gens pratiquent, et de toute façon, les gens ont toujours pratiqué la magie. Donc ça, c'est une réalité. Donc ce que l'on voit, ce sont les rituels magiques. Qu'ils aient des effets ou pas, c'est assez ambigu, en fait, parce que la personne qui pratique le rituel, elle peut penser que ça a des effets, et la personne qui reçoit, par exemple, il est bien connu que les gens qui ont, que d'une certaine façon, ça marche au niveau de l'inconscient. Enfin, c'est bien connu qu'il y a des rituels magiques qui marchent au niveau inconscient. Si quelqu'un est persuadé qu'on lui a lancé un sort de malédiction, il est bien connu que, par exemple, ça a fonctionné souvent. Je pense en particulier aux sorcières du Poitou, qui, lorsqu'elles sont allées au Canada ou en Amérique du Nord, ont rencontré la sorcellerie africaine. Et ça a donné un petit peu la sorcellerie des Caraïbes, qui était une sorcellerie extrêmement puissante. Alors après, la question de savoir si les zombies sortent effectivement de terre ou pas, c'est une autre question. Mais le résultat, c'est que sur les gens, ça a des effets. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là que je me suis penchée dans mes romans. À savoir que les gens pratiquent de la magie, des rituels, des nœuds avec des cordes, des paroles, des intonations, des chants, des sacrifices, etc., etc. Et il peut y avoir des résultats parce que les gens y croient, tout simplement. Comme à Lourdes, il y a vraiment des guérisons, quoi, sans vouloir offenser personne ici. Donc...
Et justement, Rachel, dans la mesure où vous êtes diplômée en histoire, en archéologie, est-ce que pour décrire tous ces rituels, notamment dans le cycle de Mithra, est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez justement récupéré des choses sur lesquelles vous vous êtes appuyée? Et quelle est éventuellement la part d'invention autour de tout ça?
Alors, le problème quand on cherche sur Mithra, c'est que les chrétiens qui sont venus après ont absolument tout détruit. Donc, il reste absolument aucune source écrite. Il ne reste que des sources d'iconographie en pierre. Et donc, on a été obligé de reconstituer, mais très partiellement. Donc, oui, j'ai dû faire un travail d'invention. Je me suis appuyée un petit peu sur les mystères d'Osiris égyptiens, qui sont assez, mieux, qui sont en tout cas dont il nous reste des textes. Je me suis en partie appuyée donc sur les mystères d'Osiris. Et en partie sur ce que l'on savait de la religion donc perse originelle, puisque le culte de Mithra, bien sûr, vient de Perse. Hein. Donc voilà, c'est une invention, mais une invention entre guillemets plausible. Enfin, voilà.
D'accord. Quand on parle de magie, donc on a le personnage du magicien, de la magicienne, en tout cas celui qui est porteur de ce don ou de cette capacité dans ce monde-là. Alors, est-ce que c'est forcément bénéfique, maléfique? Comment est-ce que vous voyez la chose? Et est-ce que c'est pas difficile d'être porteur de ça? Je pense notamment au personnage d'Erin, ou en tout cas de certaines problématiques où quelquefois la magie est plutôt quelque chose de lourd à porter. Comment est-ce que vous voyez la chose?
C'est marrant, j'avais pas du tout vu ça comme ça.
C'est une bonne question.
Oui, voilà. Ouais, non, mais si, dans la fille sortilège, en fait, quand t'es millionnaire, tu peux dépenser de l'argent pour toi et tu peux faire construire un hôpital en Afghanistan pour aider les petits enfants, quoi. La magie, c'est aussi ça. C'est-à-dire, tu peux essayer de faire. Alors, dans La fille sortilège, c'est pas dit dans ces mots-là, mais il y a toujours l'affrontement magie blanche et magie noire, bien mal. Effectivement, ça résonne avec la notion de bien et mal. Dans le cas d'Erin, c'est un apprentissage qui est lié aussi à ses origines à elle. Donc ça se matine de sa propre histoire, son passé, faire la paix avec ça, et puis être propulsée dans ce monde de magie qu'elle connaissait pas vraiment parce qu'elle a pas été initiée. Et du coup, elle se prend quelque part le pouvoir, enfin la capacité à avoir du pouvoir en pleine figure, et il faut qu'elle apprenne à gérer, donc ça génère de la souffrance, mais c'est quasiment comme un déferlement hormonal chez les adolescents que je vois partout et qui sont, enfin je veux dire voilà, les garçons on les voit, ils poussent en un mois, ils prennent 15 centimètres, on est... Il y a quasiment un parallèle. Alors, avec ça, en fait.
Voilà. Est-ce que c'est justement une métaphore de l'adolescence ? Parce que souvent, on a comme ça dans la fantasy des personnages qui vont apprendre à maîtriser un don, qui vont un peu comme l'adolescent, apprend à grandir et apprend à maîtriser tout ça.
Ah bah, moi, j'ai l'impression que la littérature qu'on appelle la littérature young adult, elle existe et elle est réussie quand elle arrive à créer ça, c'est-à-dire à avoir une histoire des personnages, mais un sous-texte plus ou moins inconscient qui résonne avec le passage à l'âge adulte, la découverte de soi, enfin, je sais pas, quand on a une fille et quand trois mois on se retrouve, c'est pas mon cas, mais on se retrouve avec des seins, etc., il faut composer avec la nouvelle personne qu'on est, il faut, voilà. C'est magique et c'est bien et c'est pas bien. Enfin, vraiment quoi. Voilà.
Moi, je suis tout à fait dans un autre monde. Il n'y a pas d'hormones. Ah si, il y a de la testostérone à mort, à donf. Non, je reviens sur ma guilde et ma confrérie des magiciens, ma guilde des sorciers. Alors, qui sont les gentils, qui sont les méchants ? Alors, dans la série, en fait, les gentils, a priori, c'est la confrérie des magiciens. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le pouvoir, ils sont auprès du pouvoir de l'empereur d'Isuldin, ils constituent le ciment, allez, je vais dire que c'est les religieux c'est les gardiens du temple, donc, de cette société qui crée son équilibre. On a l'impression que c'est les gentils, alors que les très méchants, c'est les sorciers qui sont exilés sur un exil intérieur, qui est un territoire, qui sont des marécages, c'est des marécages dangereux, puants, enfin, etc. Et en fait, l'histoire démontre que les vrais gentils, c'est les sorciers, et que les vrais méchants, c'est en fait ceux qui détiennent le pouvoir. Et que, en fait, s'il y a eu un exil intérieur de la guilde, c'est tout simplement qu'on a deux pouvoirs religieux, quelque part, qui se sont affrontés, mais qui étaient des pouvoirs magiques. Mais c'était la magie de la foi, c'était la magie des pouvoirs sur la nature et sur les hommes. Et donc, au fur et à mesure, on avance dans les six tomes de la saga, les choses se renversent et on se rend compte que finalement, tout est une affaire de jeu de pouvoir. Nous détenons le savoir, nous détenons la vérité. Les autres représentent le diable et représentent tout ce qu'on doit détester parce qu'ils vont générer du désordre, ils vont générer voilà, tout un tas de choses. Donc, finalement, magie noire, magie blanche, on ne sait pas, ça dépend de quel côté on se trouve.
Vous voulez réagir là-dessus, Rachel ?
Oui, enfin, toi, Arthur, ni Marie, n'avez évoqué ce qui est souvent quand même soulevé quand on parle de magie, à savoir qu'il y a quand même un prix à payer aussi pour pratiquer des actes de magie.
Absolument pas chez moi.
Oui, chez non, toi, non. Et Marie ?
Il n'y a pas de problème.
Ça ne s'incarne pas dans l'image du magicien dont parlait Sylvie tout à l'heure. Donc, je n'ai pas cette... effectivement...
Il n'y a pas de contrepartie, quoi.
Il y a la difficulté à apprivoiser la chose et donc une souffrance. Mais si tu veux, voilà, ce n'est pas le donnant-donnant auquel tu penses, je crois. Acquérir du pouvoir et donc donner quelque chose en échange de
soi.
Oui,
c'est que la magie n'est pas gratuite.
Voilà, exactement.
C'est que la magie n'est pas gratuite.
Comme la science, tu fais une recherche scientifique, le pouvoir que te donne cette science, il peut être effectivement, il peut y avoir une contrepartie qui est le désastre, ou alors au contraire, on en fait un bon usage et puis on fait avancer la société. C'est exactement, si on veut parler de métaphore.
Je pensais à un coup personnel du magicien,
oui, oui.
Tu vois.
Oui, quand j'ai posé cette question-là, moi je pensais, puisque j'interviens aussi en traduction sur les débats, en traduction de Christine Cachor qui a créé un certain nombre de personnages, et notamment dans Rouge. Elle a ce personnage de femme qui a ce don de séduire, mais de rendre fou les gens, parce que quand ils la voient, ils sont absolument ébahis, et à la fois ils ont envie d'être violents, ou ils veulent qu'elle les épouse, et elle peut manipuler leurs esprits. Et pour elle, ce don, c'est une véritable catastrophe. Ça lui pourrit la vie, et elle voudrait ne jamais l'avoir eu. Donc,
on n'est pas dans la magie, là, on est dans la malédiction.
Non, parce que c'est un don magique, puisqu'à un moment donné, elle va choisir de l'utiliser pour aider un roi, etc., etc. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est lourd à porter ? Oui, donc sûr. Voilà, c'était pour ça que j'avais posé la question.
C'est vrai, et moi je vais prendre un classique, je m'excuse, mais enfin un classique, c'est pas un classique, mais typiquement dans ce que tu dis, pour moi, un truc qui l'incarne très bien, c'est Eragon, enfin Eragon, je sais pas oui, comment on dit, hein, puisque dans ce monde-là, c'est classique, comme, mais quand on utilise et quand on fait des incantations et qu'on utilise la magie, on perd de la force vitale et on peut se consumer, et ça existe dans plein d'univers. Donc il y a le pouvoir que tu paies, enfin il y a vraiment même de ta personne, enfin de ta vie, quoi, voilà.
Alors justement, le fait d'avoir évoqué Eragon, c'est très très intéressant. Et puis tout à l'heure, on avait aussi entendu le Seigneur des Anneaux. Alors je pense notamment à des grands magiciens qu'on connaît aujourd'hui, comme Dumbledore ou comme Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Est-ce que lorsque vous avez créé vos personnages de magiciens ou autres, vous avez utilisé des références ou des modèles, ou au contraire souhaité vous mettre en opposition avec ces figures de magiciens qui étaient... Comment avez-vous travaillé ?
Moi, j'ai pas de figure de magicien, donc mais effectivement, ça fait partie d'une réflexion de se dire, si j'invente un monde alors qu'il y en a quand même des sacrés qui l'ont fait, il va falloir que j'essaye de faire un truc un petit peu différent. Et donc, je suis partie de cette idée un peu métaphorique de la magie qui est une énergie, etc., et qui est partout, évanescente. Mais c'est quasiment l'inverse, finalement. C'est l'anti-personnification. En l'occurrence, je ne peux pas trop parler du bouquin, mais c'est pas ça. Mais,
parce c'est que pas là, sans rappeler la force dans Star Wars en même temps. Hein.
Oui, sauf que là, effectivement, mais je ne peux pas. Parce que là, je raconte tout le bouquin. Mais bon, voilà. Mais en fait, non.
oui, enfin, moi, c'est plutôt assumer, effectivement, de prendre le code. Gandalf, par exemple, le grand chapeau, la grande barbe, le bourdon, enfin le grand bâton. Ma guilde des magiciens, c'est du Gandalf, ou même les sorciers. Mais c'est volontaire, c'est-à-dire que je voulais qu'on retrouve les codes, puisque moi, c'est mon univers. Simplement, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, et aux antipodes de ce que peut être un magicien solitaire, etc. Donc là-dessus, c'est un héritage assumé. Mais vous savez, finalement, si on réfléchit un petit peu, on n'invente pas grand-chose. Hein. J'aime le sentiment qu'on n'invente rien et qu'en fait, on ne fait que prendre les fondamentaux, la génétique, si je puis dire, de l'imaginaire, des fantasmes, des trucs. Et puis, chacun d'entre nous, on les met à notre sauce. Mais au fond, on retrouve toujours les mêmes choses exprimées de manière différente suivant les auteurs, suivant les créateurs.
Ceci étant dit, j'ai l'impression que si on reste dans cette histoire de métaphore et tout ça, typiquement, la magie, là, elle devient métaphorique, parce que Dumbledore comme Gandalf, c'est un peu des papas, quand même. Hein. C'est quand même une image paternelle très forte. Et donc, la magie, là, elle va un peu dans ce sens-là, il me semble.
Puis, on est obligé d'entrer quand même dans le... Je reviens sur ces codes, ce que j'appelle ces codes, parce que sinon, le lecteur, il comprend rien, il comprend pas. Mais pour qu'il puisse entrer dans un univers... quel qu'il soit, on est obligé de le faire rentrer par des portes qu'il connaît. Sinon, si on met une porte qui est tellement étrange qu'il ne la ressent pas, parce que on le voit d'ailleurs avec les... C'est pour ça que j'ai parlé d'entrée dans la fantasy pour les jeunes lecteurs, parce que si un jeune lecteur qui n'a jamais lu de fantasy, qui se met à lire un gros bouquin comme ça, il ne va pas franchir les portes parce qu'elles sont peut-être trop étranges pour lui. Et donc, il faut qu'il y ait des clés, comme il y a des clés en chimie, et que ces clés permettent de franchir des caps, des étapes, peut-être. Voilà.
Harry Potter, d'ailleurs, c'est une série qui était une série jeunesse, que finalement beaucoup d'adultes ont lu, mais au départ, les premiers ouvrages étaient clairement étiquetés jeunesse. Et puis d'ailleurs, après, le personnage s'est complexifié, c'est devenu beaucoup plus sombre au fil de la saga, mais au départ, c'était vraiment destiné à un jeune public.
Oui, oui.
Nous sommes d'accord.
Rien à ajouter sur Harry Potter.
Alors, quand on est auteur de fantasy, justement, qu'on manipule un petit peu tous ces mondes et qu'on crée cette espèce de monde imaginaire qui est comme un vrai monde réel qu'on a inventé de A à Z, parce que c'est un peu ça, oui, la spécificité de la fantasy, Est-ce que quand on crée des magiciens ou de la magie, il n'y a pas un petit peu une part de soi? Et est-ce qu'on n'y met pas des choses qu'on aimerait pouvoir faire?
J'ai coutume de dire que quand je crée un univers comme les, je sais pas, le royaume des sept tours, je suis Dieu. Je suis le Dieu de mon propre univers.
Ah ouais, d'accord.
Carrément, je me prends pour Dieu. Au diable et la modestie. Non, mais carrément. C'est normal parce qu'il n'y a rien, j'invente tout. Je vais étendre un paysage que je vais appeler l'Empire d'Isuldin. Je vais monter des montagnes, planter des forêts, mettre des elfes dans les forêts, des trolls, des orques, des dragons, des êtres humains. Tout ce petit monde va chamailler et s'étrépailler joyeusement. Et en fait, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être, vous savez, comme dans le choc des titans, le premier, là où le dieu regarde ces petites créatures comme ça, qui se bagarrent, etc. Et on se rend compte qu'on n'est pas libre, parce qu'une fois qu'on les a créés avec une certaine personnalité, seulement, ce que je me rends compte, c'est que cet univers, je l'ai créé à mon image. Comme Dieu. Donc, l'ayant créé à mon image, je l'ai créé avec mes personnalités, c'est-à-dire que mes méchants, moi j'aime les personnages qui justement ont cette ambiguïté gentil, méchant, méchant, gentil. Un méchant peut devenir gentil et en fait on s'aperçoit que c'est un super méchant. Ça j'adore, mais ça c'est ma personnalité. Donc oui, c'est 100% moi qui joue avec mes petits jouets dans ma chambre avec mes petits personnages que je fais s'étripailler. Puis je peux vous dire que ça...
Et alors, est-ce que c'est plus entre guillemets jouissif à écrire que des écrits que vous avez donc écrits également, plus généralistes, plus réalistes?
Ah oui, non, jouissif. Attends, le terme n'est pas... Comment vous dire? Quand vous écrivez... Bon, je reprends, j'ai cité tout à l'heure l'exemple d'un roman de guerre 14, l'histoire du soldat inconnu que j'ai imaginé. Alors, il y a un mort dans ce roman. C'est bouleversant, c'est terrible. Quand je l'ai tué, c'était terrible, je vous assure. Et par contre, là-dedans, j'étripaille à tout va. Je décapite, j'écorche, je suis vivant. Et ça fait marrer. Donc,
c'est les Legos, quoi.
Voilà, donc je ne pourrais pas faire la guerre de 14 tous les jours parce que... Je me souviens, j'avais écrit 2-3 romans l'un à la suite de l'autre et mon épouse m'a dit arrête parce que je commençais à devenir à déprimer, j'avais plus envie de sortir, j'avais les cernes comme ça, etc. Donc voilà. Fin...
D'accord. Alors, La fille sortilège, Jérine, la cité des six, toute entreprise de création, entre guillemets, que ce soit de faire du macramé ou d'écrire un livre, on met de soi. Enfin, je veux dire, après, que ce soit plus ou moins conscient, à quelle couche de l'inconscient on va s'attaquer, ça, moi, j'aime pas trop aller fouiller dans mon... j'aime pas trop ça. En revanche, moi qui ai peur de prendre l'avion, j'aimerais vraiment avoir des ailes comme Saskia et pouvoir voler. Et je dois dire que quand j'écris les scènes où elle vole, à la première personne du jeu, c'est... Là, c'est jouissif, là. Voilà. Parce que c'est un petit peu mon... Voilà. J'y suis avec elle, quoi. Voilà. D'accord.
Oui, je pense que tous les écrivains sont des démiurges, quand même. Hein. Effectivement, je suis d'accord avec Arthur. On invente un monde, enfin. Un monde dont on maîtrise tous les paramètres. Et je peux que corroborer ensuite. C'est-à-dire, une fois qu'on a mis les paramètres en place, il faut que, pour que le roman soit cohérent, on est dans l'obligation de respecter les paramètres que l'on a soi-même inventés. Donc, effectivement, une fois qu'on a inventé ce monde, il y a une espèce de déroulement de process qui se poursuit, mais sur lequel on est en grande partie, je dirais, là, sans jeu de mots, impuissant, quoi. Donc, plus Dieu.
Si, on a un pouvoir quand même absolu, qui est le pouvoir de remonter dans le temps. Par exemple, dans le premier roman d'Heroic Fantasy que j'ai écrit, qui se passait donc au royaume des sept tours, donc c'est des voyages touristiques que fait un jeune homme donc dans l'imaginaire. Voilà. Je dis ça parce que au départ, j'avais créé un contrôleur des impôts. Et l'éditrice m'avait dit, vous avez quelque chose contre les impôts parce que
oui, clairement, oui.
Le pauvre, je lui fais vivre des aventures terribles. Oui, oui. Elle m'a dit quand même, bon. Et alors, on s'est battu un petit peu, entre guillemets, gentiment avec l'éditrice. Elle me disait, non, il faut que ce soit un adolescent, un lycéen, non, trop jeune. Tout, voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé qu'il soit étudiant en droit. Bon, très bien. Seulement, il a fallu que je remonte le temps et que toutes mes répliques et mon personnage perdent 10 ans d'un coup. Donc j'ai pu quand même, avec mon don de démiurge justement, revenir en arrière dans le temps et complètement transformer, même si les règles du jeu fondamentales étaient...
Alors, les magiciens, les magiciennes. Chez Arthur, on a cette guilde des magiciens. Donc, c'est plutôt terme masculin.
Confrérie
des magiciens, oui, pardon. Chez Marie, on a des magiciennes. Enfin, est-ce que la magie, c'est plutôt masculin, féminin ? Est-ce qu'une magicienne serait différente d'un magicien ? Est-ce que vous l'aborderiez différemment dans vos romans, si vous aviez à écrire ce type de personnage ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ?
Dans La fille sortilège, chaque personne vivant dans la cité est initiée à 18 ans. Et
homme ou femme, donc.
Apprend après les incantations pour faire vivre sa ville. Voilà. Donc ça n'a pas de genre, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, j'ai quand même l'impression qu'une magicienne et un magicien, c'est pas tout à fait la même chose, mais parce qu'encore une fois, on est dans la métaphore, quoi. Donc il y a l'image paternelle, l'image de la femme. Mmh. De l'autre côté, ça tricote autour de choses, mais plus ou moins en filigrane, quoi. Mais bon.
C'est curieux parce que moi, je suis en train de me rendre compte que tous mes magiciens et tous mes sorciers sont tous des hommes.
D'où ma question.
T'inquiète et pas. En revanche,
on est magicienne.
En revanche, la sagesse. Si le pouvoir appartient aux hommes dans ces livres, la sagesse appartient aux femmes parce que il y a les elfes qui sont. Je suis désolé. Et la sagesse appartient aux femmes elle appartient notamment aux elfes. Puisque les conseillères, celles qui ont la sensibilité, qui sont capables, qui ont la clairvoyance, c'est-à-dire par leur sensibilité et leur
manière.
Oui, les femmes, oui, c'est des elfes femmes. Et les elfes sont plutôt femmes. Alors les elfes hommes, par contre, ils ont disparu. Tiens, je suis en train de m'en rendre compte, vous voyez.
Et Rachel, c'est vrai que quand on repart un peu sur les mythes, c'est vrai que souvent la femme était porteuse d'éléments magiques, de liens avec la nature.
Oui, mais c'est surtout, je pense, que pour la même raison qu'Arthur a mis beaucoup de magiciens, je pense parce que j'ai plus de facilité, moi, à écrire sur des femmes. J'ai beaucoup plus de difficultés à me projeter sur un personnage masculin. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. J'ai quand même écrit du point de vue d'un homme. Mais c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus aisé de me mettre dans la peau d'une femme quand même. Donc, non pas parce que je pense qu'il y ait plus de magiciennes que de magiciens. Je pense que pour moi, en fait, la magie, si je puis dire, n'a pas de sexe. Je ne crois pas qu'il y ait plus de sensibilité chez la femme ou plus de sagesse ou moins, je ne sais pas. Peut-être les femmes sont plus pragmatiques, je dirais. Ça, c'est fort possible. Mais... sinon, c'est sûr, beaucoup de personnages que je décris dans mes romans sont des femmes quand même. Donc, des femmes magiciennes aussi. Mais il y a des hommes magiciens. Hein, enfin.
C'est-à-dire que quand on est dans un univers héroïque fantasy, c'est assez musclé quand même comme monde. C'est un monde principalement, où c'est le muscle qui parle. Et le cerveau, un peu moins. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on trouve beaucoup d'hommes.
Oui, mais moi, mes héroïnes sont burnées, si je puis dire.
Et sévèrement, s'il vous plaît. Hein.
Alors, tout à l'heure, on a utilisé le mot d'elfe. Quelqu'un a parlé d'elfe, justement, voilà. L'elfe, il a aussi des pouvoirs. Est-ce que l'elfe, il est magique ou un peu magicien ? Est-ce que vous le voyez comme une créature magique ou pas du tout ?
Je prends la peau. Je vous donne ma vision de l'elfe. Hein. L'elfe n'a pas, dans mon univers, moi, dans ma vision, puis j'ai même la sensation que c'est un peu une caractéristique. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas elficologue, hein, mais l'elfe représente ce que l'humanité pourrait être dans 30 000 ans peut-être, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de sagesse où on vit en harmonie avec tout l'univers naturel qui nous entoure. On est capable de ressentir, d'éprouver, d'avoir cette clairvoyance qui n'est pas de la voyance, mais simplement une intelligence du futur, si je puis dire, parce qu'on a toute cette sensibilité. Et l'elfe, et au fond, n'est pas un être magique, il est simplement un être évolué. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors que le magicien, lui, utilise des pouvoirs extérieurs ou intérieurs. Enfin, il invoque des forces et des machins. Il est le canal de puissance magique, tout ça. L'elfe, non, il n'est que lui-même, en lui-même, un pouvoir de sagesse, d'évolution humaine, de l'esprit, on dira.
Rachel, justement, il y a des personnages d'elfes dans la nouvelle qui était dans l'anthologie du festival Elfes et Assassins, et avec effectivement des pouvoirs.
Oui, alors essentiellement un en fait. Mais cette héroïne, elle est en fait dans Elfes et Assassins, et elle est aussi dans l'anthologie Coup de cœur. Je reprends la même héroïne, donc en fait, elle est à moitié elfe. Et elle possède effectivement un pouvoir que l'on généralement effectivement, on attribue pas mal aux elfes, c'est-à-dire qu'elle est une traqueuse, elle est capable de retrouver la piste des gens, que ce soit par l'odorat ou par une espèce de projection de sensibilité, projection psychique. Mais ce n'est pas présenté comme un pouvoir magique, c'est présenté comme un pouvoir inhérent à sa condition génétique, si je puis dire. Hein. Enfin, voilà.
On imagine difficilement un elfe avec un pendule comme ça au-dessus d'une carte en train de chercher. Ce sera complètement en décalage, alors qu'il va fonctionner effectivement comme tu le dis.
Mais alors quand même, il y a un elfe qui a la capacité de créer une illusion.
Oui, alors mais ça reste volontairement assez mystérieux, c'est-à-dire qu'elle, elle n'est qu'une demi-elfe, mon héroïne. Et elle a été coupée de ses racines parce que elle a vécu dans un milieu humain. Donc, il ne lui reste que les caractéristiques, je dirais, que lui ont légué la génétique. Voilà, hein. Mais elle n'a pas les capacités, et elle ne sait pas comment, d'ailleurs, font ses parents elfes pour faire ses illusions, pour produire ses illusions. Tant il s'agit, comme l'a dit Arthur, de choses simplement matérielles. Elle ne le sait pas, en fait. C'est présenté comme de la magie, mais... De la même manière, pour reprendre la même image qui a longtemps été donnée, pour un homme de l'âge de pierre qui voit arriver un vaisseau spatial, c'est de la magie, voilà. Donc, alors que ce n'est pas de la magie. Donc, il y a un résultat qui est présenté, et puis, en fait, elle ne sait pas comment il est réellement produit.
Si je peux intervenir, d'ailleurs, c'est quand tu parles de science-fiction, si vous prenez Starman, par exemple, je parle du film là, hein, mais en fait, on se rend compte que les êtres très, très évolués progressent vers la magie, ce qui nous apparaîtrait comme de la magie, puisqu'ils sont capables de se décorporer, ils sont capables de faire des choses qui relèvent de la magie pure. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que la magie est une forme d'évolution de l'humanité et de son pouvoir, peut-être simplement matériel, puis scientifique. Mm-hmm.
Marie, une remarque là-dessus ?
Moi, j'ai pas trop écrit sur les elfes, donc je me sens pas très. Mais pour moi, c'est quand même une créature qui est très en lien avec son instinct et avec la nature. Donc après, on en revient à qu'est-ce qu'une créature magique ? Bon, pour moi, c'est une créature magique, mais parce qu'elle a une sensibilité qui n'est pas humaine, et donc même si c'est inhérent à sa nature. C'est pour moi, c'est différent.
Alors, justement, l'elfe, et je me suis posé la question très intensément, ce n'est pas un être humain et ce n'est pas un animal. Donc, qu'est-ce ? C'est ça qui est, et je me suis creusé la tête pour savoir qu'est-ce que c'était qu'un elfe. Et j'ai pas la réponse encore.
Mais en fait, l'elfe, si on prend Tolkien, c'est une vision de l'humain. Tout le paysage qui crée, toutes les cultures, etc., c'est les différentes facettes de l'humanité qu'il pousse et auxquelles il donne des caractéristiques.
Tout à fait. N'oublions pas qu'il y a simplement 30 000 ans, il y avait 3 ou 4 espèces d'homo sapiens qui existaient. Hein. Donc, si vous voulez qu'à l'heure actuelle, il n'y ait qu'une seule espèce qui est la nôtre, homme de Cro-Magnon, c'est un accident de l'histoire, hein, c'est rien d'autre. Hein.
Donc, on a notamment coexisté avec l'homo néandertalis.
Maintenant, on connaît un peu mieux l'homme de Damasie, l'homme de Florès. Oui. Donc, si vous voulez, depuis, on se rend compte qu'en réalité, c'est vraiment un accident de l'histoire, en fait, hein, qu'on soit tous si proches génétiquement et qu'on fasse vraiment qu'une seule espèce si proche. Et puis, il y a même un million d'années, il y avait encore 3 ou 4 espèces, les paranthropes, etc., etc., qui étaient vraiment... Donc, si vous voulez, c'est vrai que... Toi, tu fais la séparation homme-animal.
Non, c'est...
Pour moi, elle n'est pas si nette
non,
ça. L'homme est un animal, effectivement.
Non, mais c'est une façon de dire...
On l'assume plus ou moins dans une société où c'est mal vu.
Mais il y a les animaux et puis il y a autre chose. Ce ne sont pas des animaux. La preuve en est que... Je reviens sur le premier tome des Voyages extraordinaires. Il y a donc un être humain, un homme, donc mon touriste, qui rencontre une elfe, qui, ils se plaisent bien et tout. Et à un moment donné, ils sont sous la tente, sous les peaux d'ours. Enfin, je vous laisse imaginer, il fait bon et tout. Et là, le problème, donc, comment on fait l'amour quand on est avec une elfe?
Alors, il faut lire le roman de Laurent Genefort. Comment faire l'amour avec un extraterrestre? Comment ça s'appelle son
extraterrestre,
livre
avec un extraterrestre.
Donc, qui donne un guide de conduite des rencontres avec un extraterrestre.
Ah oui, génial.
Voilà ce qu'il faut faire.
Tu peux faire la même chose pour l'elfe.
Voilà. Oui, mais j'ai pensé.
Guide de rencontre avec un elfe.
Non, je voulais faire un roman érotique avec des elfes, puisqu'on n'a pas le droit de faire, nous en jeunesse, des romans érotiques avec des êtres humains. Mais je ne sais pas comment ils font, c'est le problème. Si vous avez des tuyaux, je suis preneur.
C'est peut-être effectivement encore une autre forme de la magie que d'être capable d'imaginer cette autre chose.
Enfin, je n'ose pas.
En tout cas, effectivement, vous êtes tous à votre niveau des magiciens parce que vous êtes capable de nous fournir des livres qui nous font rêver et j'espère qu'ils vont faire rêver longtemps vos lecteurs. Et nous arrivons au terme de ce débat. Donc, je vous remercie pour votre participation.
Merci, Sylvie.
J'invite le public à venir vous retrouver à la bulle du livre où vous êtes en dédicace. Ils vont pouvoir vous poser d'autres questions, peut-être donner des tuyaux sur les elfes, puisqu'apparemment, c'est vivement attendu. Et je remercie le public et à une prochaine conférence. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Ben oui, mais d'où le fait que je prépare bien et je me rends compte que j'ai pas mes notes, j'ai tout laissé à l'hôtel, j'ai râlé. Je fonce dans la voiture, mais en contrement. Non, mais vous avez bien fait de commencer.
Parce que on s'est dit qu'on allait gagner quelques minutes.
Voilà, bien sûr. Et puis moi, je récupère, je m'adapte, je dirai pas de soucis. J'étais vraiment extrêmement désolée, c'est la première fois que ça m'arrive en 12 ans.
Comment il s'appelle, ces gens?